ciel est bleu, sur Restaurant.
Europe 1,
20h, 22h30, des clics et des claques.
Bérangère Bonte.
Bonsoir à tous. Peut-on encore apprendre comme avant Internet, avant Wikipédia, avant Google, quand les élèves venaient en cours avec des cahiers et pas d'ordinateur ni de Wi-Fi? On ouvre le débat ce soir grâce à un passionnant numéro de Philomag, piloté par le rédacteur en chef Martin Legros, qui est là en studio. On sera aussi avec le prof de français Loïs Bonneau, qui avait tenté, souvenez-vous, de modifier un article de Wikipédia pour prendre ses élèves en flagrant délit de copier-coller. C'était il y a un an. Les réseaux sociaux tournent au grand self-service de vannes. Il y a les humoristes qui se testent sur Twitter, ceux qui se font piller. Mathieu Madénian et Pascal Atenza seront en ligne avec nous. Toute l'équipe est là, bien sûr, nos sentinelles du web, Guy Berenbaum, que je salue.
Je salue tout le monde et vous particulièrement, Bérangère.
Voilà, le roi de la vanne qui ne pille pas, évidemment,
je ne
tout
pille
comme
jamais
David Abiker.
Personne.
Salut à vous, Bérangère. Salut les copains.
Et Lise Pressac pour vos messages. Bonsoir, Lise.
Bonsoir, Bérangère. Bonsoir à tous. Vous nous envoyez vos messages sur Facebook, sur Twitter, sur Europe1.fr.
Et vos questions, évidemment, également pour la partie culture après 21h. Mélanie Thierry pour le film Omblin. Et à 21h45, Titoff qui sera sur scène au Splendide le 21 septembre. Et ce soir, notre première tête à clic est le directeur adjoint de Marianne, Joseph Massescaron.
Europe 1,
des clics et des claques.
Bonsoir Joseph Massescaron.
Bonsoir.
JMS. On vous appelle par ces initiales?
Rarement.
Non, rarement. C'est mode, hein, pourtant, mais bon.
Oui, mais rarement.
Non, vous n'êtes pas mode, vous. Le mot de l'actu du jour, ce serait quoi pour vous?
Ce serait le mot réseau. Ici, ça va faire peut-être redresser l'oreille. Oui. Réseau, pourquoi? Parce que réseau à Marseille, les réseaux du grand banditisme. Pourquoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que aujourd'hui, autrefois, le banditisme et Marseille faisaient, et la politique, ça faisait un peu bon ménage. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle forme de banditisme et la politique est aux abonnés absents, surtout à la mairie de Marseille. Donc, il y a une situation extrêmement explosive. Réseau pour ici. Réseau aussi pour les 75%. C'est la tranche d'impôt où on apprend que il y a un lobby, il y a un réseau des patrons, notamment ceux de la FEP, qui ont été reçus en toute non-transparence par François Hollande. Et ça, c'est intéressant, parce que Nicolas Sarkozy disait qu'il voulait absolument aucun corps intermédiaire. Et la question est-ce qu'avec François Hollande, le temps des réseaux n'est-il pas revenu?
C'est un édito, hein, il est bouclé, là.
C'est un job.
Excusez-moi,
c'est un métier.
Non, mais je demandais juste un mot d'actu.
C'était parfait.
Il y a déjà le composant de toute notre discussion qu'on aura tout à l'heure à partir de 20h30 dans ce qu'on appelle le grand déballage. J'ai entendu Nicolas Sarkozy, j'ai entendu les patrons, j'ai tout entendu.
Il y a tout,
c'est parfait. Alors, les vidéos, l'actu du jour sur le net, les vidéos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, vous les avez loupées. Nous, on les met de côté. D'abord, les Bleus qui jouent contre la Finlande. Demain soir, et figurez-vous qu'ils ont eu un grand moment de solitude aujourd'hui, nos Bleus, en conférence de presse, quand on leur a demandé de citer trois noms de l'équipe finlandaise. Pour reconnaître que c'est pas facile, facile. Dans l'ordre, vous allez entendre Jallet, Valbuena et Reveillère.
Alors, il y a les deux frères. Ils ont des noms russes en plus, c'est bizarre. Emerenko ou quelque chose comme ça. Et Yuki devant un attaquant, un grand attaquant d'un mètre 92 pour être précis.
Je crois qu'il y a Luki ou je sais plus, un joueur. Mais bon, c'est qu'un marqué début de la tête, mais non, mais autrement.
Qu'est-ce qui t'inspire la Finlande, pas seulement l'équipe de foot, la Finlande c'est quoi pour toi, ça, les idées qui viennent?
Bah, c'est des blonds. Ah oui, il y a des blonds dans l'équipe. Voilà, puis du Nord, quoi.
Voilà.
Tout ça n'est pas faux.
Non, tout est vrai. Alors, on fait les malins comme ça. C'est
moi,
vrai
je ne connais pas.
Mais
un seul
en même temps, nous, on n'est pas footballeurs.
Quoi.
Mais
tu les imagines en disant la Finlande, pays du Sud, quoi.
On peut imaginer qu'ils préparent un peu le match, non?
Oh, bon, non. Mais si en plus, il faut qu'ils soient intelligents dans les conférences de presse, laissons-les au moins bien jouer au foot.
Mais je les trouve assez finnois.
Magnifique.
La deuxième vidéo du jour qui a beaucoup circulé, cette nouvelle attaque, nouvelle étape et nouvel épisode dans le match Romney-Obama dans les vidéos de campagne. La scène que l'on a peut-être déjà tous vécue d'ailleurs, une jeune fille au restaurant est en train de rompre avec son petit ami et en face d'elle, une affiche en carton de Barack Obama.
Listen, this just isn't working. It's been 4 years. You've changed. Your spending is
écoute,
out of control.
Plus, c'est tout. Ça va faire 4 ans, tu vas changer, je vous fais la transition. Hein. Tu ne contrôles pas tes dépenses, tu es tout le temps sur les terrains de golf et tu sors toujours avec tes stars d'Hollywood. Tu crois que je ne t'ai pas vu avec Sarah Jessica Parker et George Clooney? Tes conseillers disent qu'ils ne t'ont pas vu depuis 6 mois. Tu n'es pas celui que je pensais. Et non, ce n'est pas de ta faute, c'est de la tienne. Ce n'est pas de ma faute, c'est de la tienne. Je pense qu'on devrait rester amis.
C'est bien.
On y est toujours, hein, dans cette. Je crois qu'on va pouvoir en avoir une tous les soirs. Hein.
Non, mais celle-là, elle est, c'est malin, c'est assez marrant, et les républicains montrent qu'ils peuvent avoir de temps en temps autant d'humour que les démocrates, ce qui n'est pas toujours gagné. Mais là, pour le coup, c'est assez malin.
La troisième, attention.
Grand moment.
Vous parlez loutre,
oui,
messieurs.
Tous.
Faites les malins, mais je vous assure qu'on en a heureusement une dans l'équipe. Parce qu'il y en a une qui a très envie de bavarder, de loutre, dans un zoo américain. Elle s'appelle Nelly et elle discute avec sa gardienne qui la filme. Ça a tourné, mais sur le net, toute la journée. Et on a dans l'équipe une bilingue français loutre.
Ouais,
voilà, qui est Lise Pressac. Alors on va tenter là aussi la traduction en simultané.
Mais attends, quoi ? Remonte, je suis malade.
Vraiment ?
Marie-toi avec Eric.
Mais comment ?
Je ne sais pas.
Vraiment ?
Fous le camp. C'était fou le camp.
Vous croyez que est-ce que vous pensez, Bérangère, que la direction écoute cette émission
non,
à l'heure qu'il est
que,
on
si
le saura demain.
En tout cas,
voilà,
c'est la dernière.
On espère qu'ils sont passés l'outre.
Voilà, ils sont passés l'outre.
Désolé.
Joseph, c'est un festival.
C'est ça.
On n'est pas aux grosses têtes, hein.
Non, on n'a pas préparé.
Question
pour
de Madame
Henriette
Dumont.
Et d'ailleurs, on va pouvoir constater si ça pille oui. toutes les vannes de Joseph Massescaron, puisque ce sera le sujet tout à l'heure. Allez, sérieux maintenant. Pourquoi nous n'apprendrons plus comme avant ?
Des clics et des claques sur Europe 1.
Bérangère Bonte.
Nous n'apprendrons plus à faire la loutre ni autre chose comme avant. Tout a changé. C'est en tout cas un dossier passionnant de Philomag. Le titre, c'est celui-là, justement. Pourquoi nous n'apprendrons plus comme avant. C'est piloté par Martin Legros, que je salue.
Bonsoir.
Voilà, vous êtes rédacteur en chef du magazine. David, allez...
C'est une question et aussi une prédiction. Hein. On peut prendre pourquoi n'apprendrons-nous plus comme avant, à la fois comme une question et comme une réponse. C'est une question de philosophe. Au moment où, pour raisonner, pour accéder à la sagesse, on pensait qu'il fallait des connaissances, éventuellement apprises par cœur, glanées longuement dans les bibliothèques, on s'aperçoit que nos enfants ont la connaissance à disposition et très rapidement. Donc on se dit, que va devenir la recherche de la sagesse si la connaissance est immédiate ? Est-ce que souffrir pour accéder à la connaissance est l'antichambre de la sagesse ? Est-ce qu'il faut patienter, ramer ? Ou est-ce que le fait d'accéder à la connaissance très rapidement permet d'accéder à la sagesse aussi rapidement ? C'est la question à laquelle nos invités sont chargés de répondre.
Voilà, et à laquelle donc Martin Legros et toute une série de philosophes et de penseurs, Nicolas Carr, Salman Khan, Michel Serres, il y a beaucoup de monde, il y a Jean-Philippe Toussaint, avec toute une série d'articles assez passionnants. Et tout part en fait d'un constat, et dans le papier que vous signez, Martin Legros, du fait que vous vous dites c'est finalement seulement la troisième grande étape dans l'accès à la connaissance et après l'écriture, après l'imprimerie. On arrive avec ce bouleversement qui est l'arrivée du web et qui chamboule beaucoup plus de choses que ce qu'on aurait pu imaginer. En tout cas.
On parlait un instant de comment ça change une campagne électorale, l'Internet, mais ça change la politique, l'économie, on apprend tous les jours. Et je crois que ce qu'on a essayé de voir, c'est en quoi est-ce que ça changeait au plus profond nos têtes, nos esprits. Comment est-ce que notre concentration est en train de se transformer? Comment est-ce que notre mémoire est en train de se transformer? Comment est-ce que notre attention, on pensait simplement que nous sommes devant, quand on reçoit nos mails, on est tout le temps capté par un nouveau mail qui arrive. C'est donc un régime de notre attention intellectuelle qui change. Ça vaut dans les classes. La scène paradigmatique aujourd'hui, c'est un professeur d'université qui enseigne, qui ne tombe plus sur le nom du livre dont il parle ou sur le nom de l'auteur. Et c'est l'étudiant qui a l'ordinateur à disposition et qui lui apporte le savoir. Il y a une sorte de renversement là total. Donc qu'est-ce que c'est qu'enseigner quand, en quelque sorte, il y a un renversement, le savoir ne tombe plus d'en haut, il y a tout change dans la classe. Mais on a voulu aller plus loin que la classe pour sonder en quelque sorte, oui, en quoi est-ce que notre rapport au savoir est en train de changer complètement. Vous l'avez dit,
trois grandes révolutions du signe, à l'écriture et l'imprimerie, les historiens disent déjà qu'à la naissance de l'écriture, notre cerveau s'est modifié. C'est-à-dire que la manière dont notre cerveau était articulé, puisqu'il a construit l'écriture en liant l'ouïe, le langage, la vue, tous les sens se sont construits pour inventer l'écriture, eh bien, peut-être qu'avec le numérique, notre cerveau est aussi en train de changer. En tout cas, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que le savoir qui était classiquement quelque chose qu'on doit s'approprier, comme le disait David Abiker, au terme d'un long travail d'intégration, d'incorporation, aujourd'hui, ce savoir, il est sous la main, dans nos ordinateurs et dans un ordinateur portable. Il est là, disponible. Et en quelque sorte, le processus d'apprentissage, c'est aujourd'hui apprendre la manière technique d'accéder à ce savoir qui est disponible. Et je terminerai par là, la figure paradigmatique aujourd'hui, c'est plus le grand savant humaniste. De qui parle-t-on quand on veut parler de celui qui sait ? On parle d'un chercheur, c'est-à-dire quelqu'un qui a un rapport technique au savoir. Voilà ce qui change radicalement, alors avec des conséquences positives, négatives, on a essayé de faire le bilan, mais c'est là, à notre avis, qu'est le changement le plus décisif.
Ça s'agite un peu autour de la table. Moi, juste simplement, ce que je trouve simplement passionnant moi, dans ce dossier, c'est que c'est peut-être la première fois qu'on étudie véritablement les modifications que ça entraîne sans chercher. Moi, j'entends souvent ce discours d'essayer de freiner toute cette évolution voilà. C'est un fait acquis.
Simplement
c'est
réfléchir.
Un fait acquis et avançons et observons ce qui change. C'est pour ce qu'il y a d'assez intéressant là-dedans.
Classiquement, quand on réfléchit sur l'éducation, il y a les réacs et les progressistes, ceux qui disent que le niveau baisse, le niveau monte. On a voulu vraiment aller au-delà de ça et d'abord faire un état des lieux de ce que disent les spécialistes sur l'état de notre mémoire aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites des photos en vacances, vous les stockez, vous les imprimez plus, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire cette mémoire qui est là mais qui en même temps est loin. Qu'est-ce qui change? Quel type de concentration nous avons quand nous lisons? Il y a beaucoup de gens qui disent qu'en effet la concentration est devenue quelque chose de problématique. Il y a des études qui sont menées là-dessus. La concentration en profondeur. Les scientifiques aujourd'hui qui ont une culture, qui sont nés avec la culture numérique, ils sont beaucoup plus rapides que leurs prédécesseurs, mais ils prennent beaucoup moins le temps d'approfondir les choses. Ça, c'est des études qui existent. Donc, on a des données et à partir de ces données, il faut réfléchir au positif. Il faut adopter aussi peut-être des disciplines pour savoir gérer ces transformations.
Alors, je vais signaler et saluer, parce que je ne l'ai pas fait, signaler la présence de Loïse Bonneau. Bonsoir.
Bonsoir.
Je disais donc que vous êtes ce fameux prof dont on avait beaucoup parlé l'année dernière, qui aviez piégé.
C'était pour mes élèves.
Pas juste pour les piéger, mais pour leur faire prendre conscience.
Qu'ils prennent conscience de ce qu'ils faisaient.
Voilà, et donc vous aviez modifié une série d'articles notamment.
J'avais fait un faux commentaire tout pourri que j'avais publié chez des sites payants. Et
ils étaient tous tombés dans le panneau.
Et les élèves se sont aspirés parce que pour un exercice qu'on doit faire en principe déconnecté, on s'aperçoit qu'ils ne peuvent plus être déconnectés.
Donc ils ont copié-collé,
ils ont
etc.
D'être connectés. Et pourtant au bac, je suis désolé, mais le bac, vous n'êtes pas connecté. Ouais. Vous êtes seul.
Mais concrètement, vous aviez retrouvé comme ça, c'est des paragraphes entiers de copier-coller ou des bêtises dans un pourcentage à peu près.
Mais
combien de copies
des choses, pourquoi pas, tout le monde le fait, mais là, ils avaient copié des bêtises. Et ils ne le comprenaient pas.
Et c'était
pas rendu compte.
La proportion d'élèves qui étaient tombés dans le panneau
51 sur 65, si je me souviens bien, à des degrés divers. Mais par contre, j'avais vraiment bien constellé le web de plein d'indices. Et donc, j'avais vu ceux qui étaient allés où. J'avais fait une petite généalogie du crime, là. Et c'était très intéressant de voir où ils passaient. Mais moi, je n'en voulais pas du tout. C'est naturel. Je voulais surtout qu'ils prennent conscience que c'était un exercice où il n'y avait pas besoin d'aller sur le web.
Et ça a produit ses effets ?
Moi, je pense que mes élèves...
Vous en ont voulu à mort.
Ah non, pas du tout. Ils ont trouvé ça très intéressant. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une leçon vous voyez, c'est comme faire la morale, si vous voulez. On sait bien ce qu'il ne faut pas faire, mais on le fait quand même.
Ça dépend.
Joseph Massescaron voulait réagir tout à l'heure.
Oui, deux petits éléments. Un, je suis tout à fait d'accord, ça dépasse la notion de réac ou pas réac. Il y a cette semaine un académicien comme Marc Fumaroli, qui ne passe pas pour un apologue de la modernité, dit qu'aujourd'hui, son dernier livre, il ne l'aurait pas fait sans Wikipédia. Ce qui est quand même quelque chose d'assez étonnant et d'étonnant, premier point. Deuxièmement, je suis assez sensible à la notion de technique. Est-ce que Internet va développer une technicité nouvelle, un support, ou est-ce qu'en même temps, ça va être un savoir? Pourquoi je pose cette question? Je rappelle quand même que dans les années 50-60, la télévision était censée bouleverser notre comportement culturel. Il n'en a rien été.
Ça dépend pour qui.
Je pense, évidemment, bien sûr, qu'il y a déjà un savoir qui est en train de se dégager du net, particulier, et ce qui est intéressant, c'est de le faire apparaître.
David Abiker.
Une question sur, vous avez parlé des lettres de l'imprimerie et du rapport à l'écrit sur Internet, sachant qu'avant les lettres et l'imprimerie, on était dans les caractères, mais juste avant, on était dans les images. Est-ce qu'on revient à une construction de la pensée où la lettre qui dominait va être de nouveau concurrencée par l'image, comme au temps de la grotte de Lascaux, ce qui serait peut-être, j'imagine, un recul?
Il veut un nouvel iconoclasme.
J'en sais rien, mais je pose des questions, je sais pas.
Je ne veux pas faire des prophéties.
Martin Legros.
Ce que je crois, moi, c'est qu'on a en effet à un moment donné dit que les écrans, c'était nécessairement de l'image. Je crois que c'était une très grosse erreur. Et quand on regarde ce qui transite par Internet, c'est très majoritairement encore du texte.
Oui, mais qu'on balaye. Qu'on balaye, parce qu'une page, c'est combien? C'est 2-3 secondes de fréquentation. Ça va à une vitesse folle.
Je ne suis pas sûr quand vous comptabilisez le nombre de mails que les gens écrivent, que je crois qu'ils se
vrai,
sont remis à écrire beaucoup à travers.
C'est vrai. Pas mes élèves, par contre.
Je ne crois pas que c'est l'image. Je crois que même l'image, ce n'est pas l'image ancienne, en réalité. L'image qui circule à travers Internet, c'est une nouvelle image. C'est-à-dire, je crois que tout est transformé par ce nouveau, qui est plus qu'un support. C'est le plus intéressant, je crois, c'est la question de notre attention, de notre mémoire, c'est-à-dire la mémoire aujourd'hui est quelque chose de... tous disent il faut adopter des disciplines. Par exemple, Jean-Philippe Toussaint, écrivain, dit aujourd'hui, quand il écrit, il dit je vais chercher, bien entendu, sur Wikipédia, comme son collègue de l'Académie, je vais chercher beaucoup d'informations sur Wikipédia, mais quand je me mets à écrire et à créer, je coupe la connexion, précisément pour dissocier ces deux moments. Et je crois qu'on est tous aujourd'hui, au niveau de l'écrivain, au niveau du photographe, à tous les niveaux dans notre vie quotidienne, en train d'adopter des nouvelles disciplines pour pouvoir, en quelque sorte, régler notre régime de l'attention et l'adapter à ce nouveau média qui est en train de capter notre attention et de nous imposer un rythme. Et c'est ça qu'il faudrait éviter.
Il y a une nouvelle fracture numérique. Hein. Maintenant, les élèves favorisés, ce sont ceux dont les parents contrôlent Internet et font attention à ce que leurs enfants aillent sur Internet.
Alors, c'est un autre aspect, effectivement, du
sujet. Mais c'est très intéressant de voir...
On va y venir. Voilà. Je vous propose de marquer une petite pause. On est dans des clics et des claques. On continue donc à parler de l'apprentissage, de l'enseignement, de la connaissance et de la façon dont on apprend à l'heure d'Internet. A tout de suite.
Europe 1, 20h, 22h30.
Des clics et des claques.
Répétez ce que vous venez de dire, Loïs Bono.
Ça, c'est pour notre gueule, ça, nous, les professeurs.
Teacher, mais oui, mais c'est dans notre playlist, ça venait forcément, naturellement, quand même.
Pink Floyd, normal.
Bon, pour votre gueule, comme vous dites. Pour revenir à vous, justement, et sur ce que on s'est séparés là, en se disant, effectivement, cette fracture, c'est un des soucis, effectivement, de qui se présente.
Regardez
avec...
Regardez ce que disent vos invités. Vos invités disent, voilà, un tel grand personnage, se sert d'Internet, etc., mais... Tous nous sommes réunis ici, on a une culture finalement scolaire classique. Donc on sait utiliser Wikipédia, on sait utiliser Internet. On a les outils de l'école classique et les enfants qu'on a aujourd'hui, c'est plus la même chose du tout. Et ça, faites-les venir,
autre chose.
Vous
devriez les inviter
pour qu'on en discute. Non, parce que
c'est le bagage culturel des parents.
Parce que pouvoir, c'est pas ça, c'est que les enfants, ils n'appréhendent pas ce qu'ils trouvent sur Internet en fonction d'une culture qu'ils ont acquise à l'école traditionnelle. Mm-hmm. Ils ne l'appréhendent plus comme ça. Hein, et donc, quand vous me parlez de connaissances, de savoir, etc., ça suppose d'abord de savoir lire, de savoir comprendre un texte,
même,
etc.
Même au-delà de la culture, si on évacue quelques secondes la culture, c'est surtout la manière de chercher qui est fondamentalement différente. Je veux dire, moi, par exemple, j'ai écrit une thèse, il fallait que j'aille en bibliothèque. C'est fini.
C'est beaucoup plus simple.
Ouais, ça change tout. Et alors, on parle du niveau thèse. Donc, pour les mômes, c'est encore plus évident.
Vous avez l'air de le regretter, cher Guy.
J'en ai bavé, donc peut-être que c'est pas mal d'en baver un peu.
Le fait est là, quoi. Et donc,
le fait est là, mais il faut le regretter. Il y a 40 ans, Pierre Bourdieu a écrit.
Non, il faut trouver comment remédier. Voilà.
Oui, mais... comment remédier. Mais le diagnostic est exactement le même que celui que Bourdieu a fait il y a 40 ans. Il a écrit un livre qui s'appelait Les Héritiers. Il y expliquait que l'école rémunérait un savoir et des qualités qui n'étaient pas apprises à l'école,
mais le capitalisme gris.
Qui étaient apprises dans la famille, qui protégeait les enfants et qui lui transmettait un capital culturel. Le capital culturel d'aujourd'hui, c'est d'interdire aux enfants les écrans dans certaines périodes d'apprentissage.
Voilà. Oui,
c'est
ça.
Et Dieu reconnaîtra les siens et l'élite se reconnaîtra.
Est-ce qu'on peut dire simplement apprendre à les utiliser, qui serait quand même plus juste, parce que apprendre, en effet, apprendre à les utiliser, parce que sinon, si on n'apprend pas aux enfants à les utiliser, on va, qu'est-ce qui se passe avec Internet? Les riches en savoir vont être de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres.
Bien évidemment, plus, c'est ça le problème. Et ça correspond, les riches en savoir et les pauvres en savoir correspond en plus avec les catégories sociales.
Dans la Silicon Valley,
les interdits de télévision d'hier sont les interdits de numérique de demain. Parce qu'il faut 2 jours pour rattraper son retard numérique, il faut 8 ans pour rattraper des apprentissages de base.
Pardon, mais je reviens au départ, vous êtes mignon là, mais le fait est là, je veux dire, on peut aussi revenir effectivement au moment de l'apparition de la télé et on se désolé.
Non, personne ne veut ça.
On est un peu là quand même.
Ah non, pas du tout, moi je suis un geek, hein. J'utilise tous ces outils, je sais que mes élèves l'utilisent, mais je pense que voilà, regardez, ce que moi je vais enseigner dans
moi
des
aussi,
endroits...
Moi aussi, Guy, j'ai fait des mémoires en cherchant, et bien sûr que j'aimerais bien que nos enfants et nos enfants sachent chercher, mais c'est pas
en... Qui fait une enquête sur Internet, elle fait tout à partir d'Internet, je trouve ça génial. Parce qu'elle elle s'est creusée, vérifiée, tout ça. Mais les élèves, eux, ils cherchent la facilité dans Internet.
Non, mais
pas autre chose.
Il n'est pas question d'interdire. Moi, je suis moins radical que David, ni d'empêcher. Mais je pense qu'il faut accompagner. Et que notre travail, ça doit être d'éduquer.
Alors, on va voir comment.
Et donc, ça doit. Ça passe par une modification totale de notre système éducatif qui est à la ramasse. Et quand je vois comment les mômes n'ont pas de matériel, justement, ou alors un matériel qui est à peine au point, là, il y a un problème.
Lise le message.
Justement, une remarque de HGWCA. Il faut savoir utiliser avec un juste milieu ce média, mais pour ce faire, il faut l'inscrire dans les programmes scolaires. Est-ce que c'est votre avis?
Non.
Loïs Benoît.
Non, parce que vous dites qu'il faut, le matériel est hors d'usage, etc. Mais de toute façon, le temps qu'on programme l'achat d'un matériel, il sera hors d'usage. Enfin, je veux dire, vous voyez si, c'est en 5 ans, ça vaut plus rien. En tout cas, c'est les chiffres officiels du ministère. En 5 ans, un ordinateur est considéré comme vieux. Vous imaginez, on sera toujours à la bourre. On va leur enseigner Wikipédia et Facebook, mais ça n'existera plus quand ils seront adultes.
Loïs Benoît, est-ce que ça modifie, est-ce que vous sentez, vous, que ça modifie votre position de prof, le rapport que vous avez avec vos élèves,
Ils me font confiance encore plus qu'avant. Moi, je trouve.
Ça pourrait être l'inverse. C'est-à-dire, vous n'êtes plus le détenteur d'un savoir encyclopédique.
Non, parce qu'ils se sentent bien que moi, quand je lui pose une question, j'ai pas besoin de consulter un écran, moi. J'ai appris des choses, j'ai travaillé longtemps et c'est là.
Oui, mais ils peuvent le trouver d'un clic. Enfin, ils font une recherche et un truc dans la barre de Google et c'est terminé. Vous apportez quoi de plus?
Ben justement, moi, j'ai pas besoin d'aller sur Internet. Je suis là, alors je leur réponds beaucoup plus vite. Je sais exactement quel est leur problème. Je suis bien mieux adapté à leurs questions qu'une machine. Enfin, ça ne sera.
Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi, je suis beaucoup moins fort que Loïs Bonneau et Internet va beaucoup plus vite que moi. Je m'excuse.
Oui.
Je crois pas que quiconque puisse aller.
Prendre un exemple.
Ouais, mais.
Prendre plein d'exemples.
Non, mais faut pas exagérer non plus. Moi, je pense vraiment c'est un problème d'accompagnement. Tout ce qu'on doit régler, c'est un problème d'éducation et d'accompagnement.
Oui, c'est plus que ça, parce que vous raisonnez là depuis 5 minutes comme s'il y avait un savoir qui était le même et qui était intangible et qu'on avait juste trouvé un nouveau moyen de le transmettre. Oui. En réalité, ce que je crois, c'est que c'est beaucoup plus profond que le savoir lui-même est en train de se changer. Alors évidemment, quand on a changé l'écriture, quand l'écriture est apparue, vous avez eu des gens, et des plus illustres comme Socrate, qui a dit « Oh là là, l'écriture, ça va tuer la mémoire, il faut surtout pas s'en servir parce que il faut avoir un rapport vivant avec les choses et si on le met par écrit, on n'essaie plus de s'en souvenir et de le garder en tête. Non, l'écriture a quand même changé le monde. Et donc, il ne faut pas raisonner, je crois, c'est le grand danger, c'est de raisonner avec les outils de l'ancien régime pour le régime à venir.
Mais il faut quand même savoir lire.
Ça fait peur à vos collègues, Louis Bruno. Manifestement, vous, non, mais...
Le numérique en général.
Cette perte du statut comme ça.
Statut. Non, il n'y a pas de perte de statut. Je pense vraiment que nos élèves...
aussi qu'il y a moyen de
je pense que ça, c'est un discours qu'on entend beaucoup dans les médias
de la situation différemment.
Chez les pédagogos, mais...
Pas chez les profs.
Pas chez les profs, parce que nous, on sent
bien... Les élèves devant qui sont capables d'aller retrouver le truc aussi vite que vous.
Vous me dites, je peux trouver sur Internet, mais on vous demande de parler en anglais, vous allez consulter Lexilogos pour savoir la traduction.
C'est encore autre chose.
Et c'est la même chose pour moi.
Juste une petite remarque, c'est la rentrée. À chaque rentrée des classes, le ministre de l'Éducation ou les ministres de l'Éducation nationale font des grandes sorties. Jamais de ma vie, je n'ai entendu un ministre de l'Éducation nationale prendre le taureau par les cornes et dire aux citoyens, aux parents d'élèves, on est dans une mutation phénoménale, ça va percuter les savoirs, ça va changer le métier de l'enseignant. Ils ne sont bons qu'à dire il faut recruter, il faut créer des emplois, et ils ne sont bons qu'à dire il faut alléger le poids des cartables, et ils ne sont bons qu'à redresser la morale et l'intellect.
Oui. Ou alors c'est délirant. Ou alors reprendre Jules Ferry dans le texte.
Mais ils sont nullissimes sur cette question.
C'est assez vrai.
Jamais ils n'en ont parlé.
Alors, Joseph Massescaron, puis quelques messages sur Twitter pour terminer.
Il y a toute une consultation sur le numérique.
Joseph Massescaron.
Je suis tout à fait d'accord. Là, le savoir particulier que dégage Internet est en train de se faire. Moi, je trouve que c'est vraiment la particularité par rapport à la télévision. Ce n'est plus une technique, ce n'est plus un support. Il y a un élément qui est fondamental. Avant, la pensée était une pensée approfondie. C'est-à-dire que vous aviez un savoir, vous l'emmagasiniez et vous le travailliez, il fallait le garder en état.
Aujourd'hui, puis le recracher.
Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous allez vers une pensée de plus en plus analogique. Vous allez sauter d'un point à l'autre. Mmh. Et ce qui se crée, en règle générale, ce qui s'invente, se fait beaucoup plus par la pensée analogique que par la pensée approfondie.
C'était le mot de la fin, peut-être quand même des messages sur Twitter.
Oui,
et
Marie,
puis on va passer.
Marie Flynn qui nous dit « Je rassure les vieux, il faut toujours galérer pour écrire un mémoire ou une thèse. Sur Internet, il faut naviguer dans la masse d'informations et trier, et ce n'est pas forcément plus simple. »
Comment trier ? Les vieux remercient Marie Flynn et l'embrassent avec affection.
Bon, et nous tous, on remercie Martin Le Gros et je vous conseille donc ce numéro de Philosophie Magazine. Pourquoi nous n'apprendrons plus comme avant, avec toute une foule de réflexions passionnantes. Merci beaucoup aussi.
Merci.
À vous Loïs Bonneau, bonne rentrée, tout s'est bien
passé.
Merci,
tout se passe bien.
Bon, tout va bien. Allez, on va se retrouver dans une petite seconde, la suite de Déclic et des claques, avec le grand déballage autour de Joseph Massescaron dans un instant, et puis des vannes qu'on pille, qu'on copie-colle, qu'on teste aussi parfois sur les réseaux sociaux, d'accord ? Après 21h, je vous rappelle le programme culture. Oui, Mélanie Thierry pour Ombline et puis Titoff qui sera sur scène à la fin du mois de septembre.
Europe 1, Déclic et des claques.